Bonjour à toutes et à tous, il est midi 15 ou 18h si nous écoutez en rediffusion. Vous êtes sur Radio BLV 93.6 et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Aujourd'hui, c'est Sylvie et Maria qui vous accueillent avec Clément à la technique. Bonjour.
Bonjour.
Alors Sylvie, au sommaire de cette locale du... Oui, je disais Sylvie, au sommaire de cette locale du jeudi 23 juin, de quoi allons-nous parler ?
Alors, on va parler avec Xavier Masclot du Moulin Digital et on va revenir sur le projet Innove Act On, en premier lieu. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Et puis ensuite, on parlera avec Rémi Rassiti, directeur du Centre musical de Bourg-lès-Valence, pour le concert de Yom et Sheram, sur lequel nous serons présents, mais on en reparlera, qui aura lieu le 30 juin. Et puis, ainsi que Martha, qui est avec nous, Martin Maddox, du Centre musical aussi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors aujourd'hui, je suis avec Xavier Masclot dans le studio. Donc Xavier, tu travailles au Moulin Digital. Est-ce que tu peux dire aux auditoristes qu'est-ce que c'est que le Moulin Digital ?
Oui, alors le Moulin Digital, c'est une association qui a pour métier en fait d'aider les pros à mieux utiliser le numérique pour développer leur activité.
Ok, vous êtes basé où ?
Alors on est basé à la gare TGV à Lixan et on travaille sur tout le département de la Drôme, majoritairement, donc du nord au sud.
Et alors, qu'est-ce que c'est la transition numérique ?
Ouais, la transition numérique, c'est vrai que c'est un mot un peu technique, mais en gros, ça veut dire on a des outils numériques, on a des services, on a le web, on a les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de voir comment on peut se les approprier, donc se former quelque part à les utiliser pour développer des activités, que ce soit des activités associatives, des activités d'entreprise ou autres.
Et donc, quelles sont les structures avec lesquelles vous travaillez, enfin, quel type d'organisation ?
Alors, on travaille pas mal avec des institutionnels, puisque le département de la Drôme est un de nos soutiens, ou l'agglomération de Valence-Romans. On travaille également avec des structures un peu comme les nôtres, je pense au 8 Fab Lab, qui est un laboratoire en fait, d'innovation collaborative. Des tiers-lieux aussi, donc c'est des espaces qui sont un petit peu sur tout le département et qui accueillent à la fois des pros ou des personnes qui sont passionnées pour créer et partager des savoirs, des compétences.
Ok, et toi, dans cette structure, qu'est-ce que tu fais exactement ?
Alors moi, mon quotidien, je dirais que c'est déjà d'aller rencontrer des entreprises, des associations, de les aider en fait à clarifier un peu quels sont leurs besoins de ce qu'ils veulent faire, définir leurs objectifs et de voir ensuite après comment les outils numériques peuvent y contribuer. Donc après, ça va être une posture de conseiller, de formation. Ça, c'est une des premières parties de mon travail. La seconde, ça va être de travailler plus sur l'organisation d'événements. Des événements professionnels où on va essayer de faire venir des publics qui ne sont pas uniquement des gens du numérique. On s'intéresse notamment à l'artisanat, on s'intéresse à l'agriculture, plus récemment à l'alimentation, et essayer de les faire travailler ensemble autour de sujets concrets.
Et alors, ça fait une bonne transition, si j'ai bien compris, avec un événement que vous avez organisé en décembre. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, donc l'événement en question, c'est Innove Act On. Donc, c'est un événement en fait, ce qu'on appelle d'innovation collaborative, qu'on a débuté le 8 octobre 2021 à Valence. Et on a ensuite organisé en février-mars différents ateliers à Cray au 8 Fab Lab pour aboutir à une restitution la semaine dernière, donc le 15 juin à la Tour Maubourg à Valence. Donc ce programme, en fait, il vise à travailler sur une thématique qui n'a rien à voir avec le numérique, donc l'alimentation. Et là, pour être plus précis, c'était l'alimentation accessible, une alimentation de qualité accessible à tous, et de voir, en s'appuyant sur le numérique, s'il y a une possibilité de résoudre des problèmes rencontrés dans le quotidien des professionnels de ce domaine. Bon, ça, c'est vraiment le point de départ. Donc nous, on a travaillé avec un CCAS qui est à Cray, donc un centre communal d'action sociale, qui nous a dit, nous, notre problème, c'est on a plein de publics qui viennent, qui ont un budget limité, qui ont envie de mieux manger et on voudrait pouvoir les accompagner de manière pérenne, un peu plus dans la durée, à changer leurs habitudes. parce qu'on sait que les habitudes alimentaires, on ne les change pas si facilement. Donc, on a dit, OK, on peut organiser un groupe autour de ça, essayer de faire venir des gens qui sont à la fois de la communication, du marketing, d'autres associations, des gens du numérique, et essayer de voir si, avec le numérique, on peut imaginer des solutions concrètes pour répondre à ce problème.
Et alors, ce format là, d'Innovacton, c'est pas vous qui l'avez créé, je crois. Est-ce que tu sais un petit peu d'où ça vient
Alors, le Innovacton, on s'inspire en fait de méthodes que pas mal de développeurs informatiques utilisent, mais grosso modo, c'est l'idée de dire on est tous experts de quelque chose, et c'est en se regroupant, en échangeant, qu'on peut faire émerger des solutions qui soient adaptées. Et adaptées, c'est-à-dire adaptées techniquement, mais aussi économiquement, et puis aux attentes et aux vrais besoins des acteurs. C'est un petit peu ça le point de départ. Nous, on l'a formalisé sous un nom qui s'appelle Innovacton. Ça, c'est en partenariat avec le 8 Fab Lab, puisque l'idée, c'est à la fois d'échanger des idées, mais à la fin, c'est d'aboutir à la réalisation d'un prototype. Donc, on essaye d'avoir un petit peu toute la chaîne depuis l'émergence de l'idée jusqu'à la réalisation du prototype.
Et est-ce que du coup, c'est le CCAS qui est venu vous chercher en tant que structure ou alors c'était votre idée de travailler sur l'alimentation ?
Alors, l'alimentation accessible, en fait, c'est le département de la Drôme qui nous avait mandaté sur cette opération. Nous, on applique la méthode et on va chercher les acteurs qui ont des problèmes dans ce domaine. Donc, c'est nous qui sommes allés rencontrer le CCAS de Cré et pour avoir des vraies problématiques de terrain, parce que nous, on n'a pas l'habitude de travailler avec ces publics. Donc, on avait besoin aussi de leur retour à eux et puis qu'ils expriment leurs vrais besoins. Et ça a été un peu l'objet de la rencontre du 8, donc la première rencontre en octobre. On a beaucoup parlé du budget, c'est-à-dire comment mieux maîtriser son budget alimentaire, pour ensuite, finalement, en se disant collectivement que c'était peut-être plus intéressant de partir de ce qu'il y avait dans l'assiette, pour voir après comment on arrivait à réduire le budget, et pas l'inverse. Donc on est plutôt parti du plaisir de manger, des recettes, de la cuisine, et voir après comment on s'associe à des structures locales qui peuvent permettre d'avoir des achats à moindre coût.
Ah oui, d'accord. Mais je me demande qui a participé du coup, qui sont les gens qui ont réfléchi ensemble
Ce qui est sympa, c'est que c'est des gens qui viennent donner leur temps. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent de manière bénévole pour une demi-journée. Donc on avait un designer, quelqu'un qui était en formation d'une école de design, un développeur informatique. On avait des structures d'action sociale, quelques collectivités territoriales et des personnes qui sont des porteurs de projets, qui s'intéressent à ce qui se passe dans leur environnement, sur leur territoire, pour faire un peu le portrait robot.
Et alors, la solution, vous l'avez trouvée ?
On en a trouvé une. J'espère qu'elle va aboutir. En fait, la solution, elle s'appelle l'appli Miracle. C'est une application mobile. Qui va être utilisée à la fois par des acteurs sociaux qui accompagnent les publics et à la fois par des familles qui ont fait le choix de changer leur manière de changer un peu leur alimentation ou au moins initier une démarche de changement.
Et moi, ce qui me vient à l'esprit quand tu parles d'application, c'est qu'on sait aussi, on parle beaucoup de numérique aujourd'hui, mais on sait aussi qu'il y a toute une frange de la population qui est un petit peu exclue de cette transition. Tout le monde ne transitionne pas et du coup, est-ce que du coup, tout le monde va pouvoir bien s'approprier cette application
Alors l'application, en fait, c'est le numérique, il est intéressant à partir du moment où on veut essayer de massifier, c'est-à-dire avoir passé à l'échelle, parce que finalement l'application, ça pourrait être un document, je vais vous décrire ce qu'elle fait après, mais ça pourrait être un document, mais à partir du moment où on veut passer à l'échelle, c'est intéressant d'avoir une application et d'automatiser. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie, mais ça, il n'empêche que des personnes qui n'auraient pas de smartphone pourraient, avec leur assistante sociale, imprimer une liste de menus, parce que je vais y venir, cette application, elle permet de générer une liste de menus sur la semaine, plus une liste de courses, c'est vraiment ça sa plus-value. Donc c'est un prototype aujourd'hui, elle n'existe pas encore, vous n'allez pas pouvoir la télécharger, mais c'est d'avoir sa liste de menus sur 7 jours, avec un menu par jour, qui est basé sur des produits de saison, et qui va générer une liste de courses auprès de producteurs locaux ou de structures qui organisent des commandes auprès de producteurs locaux. Et nous, on l'a imaginé pas comme une application mobile que vous allez télécharger et utiliser de manière autonome, puisqu'on s'adresse à des publics qui ne sont pas forcément des férus de technologie. On l'a plutôt imaginé avec un accompagnement, un coaching, on dirait, en langage d'entreprise, mais un accompagnement du CCAS pour changer ses habitudes alimentaires. Parce qu'on est persuadé que l'application ne suffira pas pour faire changer les habitudes alimentaires et il faut aussi autre chose autour de ça. C'est pour ça que cette application, on ne l'a pas imaginée toute seule comme ça, mais on l'a imaginée dans un écosystème, c'est-à-dire avec d'autres partenaires, d'autres personnes qui sont capables d'accompagner ces changements.
Et est-ce que au cours de ce processus de création de l'appli, enfin du prototype, si j'ai bien compris, il y a quelques personnes qui ont pu tester, enfin essayer de se rendre compte, est-ce que ça répond à un vrai besoin finalement ? Parce que des fois, il y a les professionnels qui imaginent quelque chose, et est-ce que en fait le public va...
Eh bien, ça serait la prochaine étape, parce que là, aujourd'hui, on a des maquettes, c'est-à-dire qu'on sait à quoi elle va ressembler, on sait les différents écrans de l'application. Le premier qui va vous demander s'il y a des choses que vous n'aimez pas, si vous avez des intolérances alimentaires. Le second qui va vous demander combien il y a de personnes dans votre foyer pour adapter les quantités. Et le troisième qui va vous faire des propositions de menus et de listes de courses. Donc ça, on a un peu les grands ensembles de cette application. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est que cette application, elle cherche un porteur projet pour pouvoir être développée. Et quand elle sera développée, elle va être testée par le CCS auprès des publics cibles, en fait. Et c'est là qu'on aura des retours qui nous permettront éventuellement d'ajuster ce qu'on avait prévu initialement et peut-être de le modifier à la marge.
Et tu parles d'un porteur de projet. Du coup, c'est censé être un projet économique à terme ?
Pas nécessairement, parce qu'un porteur de projet, on a imaginé aussi que ça pouvait être un collectif d'associations existantes. Je les mentionnerai tout à l'heure parce qu'on les a invités effectivement à la soirée de restitution. C'est-à-dire que des personnes qui gèrent notamment tout ce qui est achat groupé de produits, pour tous ceux qui gèrent aussi des épiceries sociales et solidaires. Ça peut être aussi des restaurants sociaux et solidaires ou des porteurs de projet qui ont une dimension plus numérique. Et ce projet-là, en fait, il pourra être soutenu, c'est-à-dire que la réalisation du prototype pourra être soutenue éventuellement. On a déjà des pistes de financement pour le faire, mais ce n'est pas forcément un projet d'entreprise, au sens, c'est une application. Le succès de cette application, c'est si elle est utilisée par les assistants, assistantes sociaux, en fait. C'est plus ça qu'un succès économique stricto sensus.
Ok, ouais, ça a l'air chouette. Et... Je me disais, du coup, il y a les personnes qui ont participé à élaborer ce prototype, ils sont bénévoles. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont donné de leur temps. Est-ce que certains vont continuer à participer à ce projet-là ?
C'est l'avis d'un collectif, quelque part. Il y en a certains qui viennent parce que ça les a intéressés initialement. Puis après, ils peuvent repartir, d'autres qui arrivent. Donc ça, c'est vrai que ça bouge. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que le travail qui a été produit, on essaye de le rendre disponible publiquement. On n'a pas vocation à garder ça, donc on a vocation plutôt à le diffuser et à lister les contributeurs qui ont participé. C'est un peu l'esprit des licences libres dans le logiciel informatique. On s'en inspire, en fait. Et donc, tous les travaux, les comptes rendus, les maquettes, les supports, ils vont être partagés, diffusés pour que n'importe qui puisse le réutiliser.
OK. Et est-ce que vous allez refaire ce format des prochaines fois sur d'autres questionnements ?
Je pense, parce que ça nous a paru vraiment pertinent, sachant qu'on pourrait aller jusqu'au prototype. Si on avait eu, par exemple, la réalisation d'une maquette d'un objet, par exemple, ça n'a pas été le cas sur ce projet, ça aurait pu être le cas. Le 8 Fabab a des machines, a des outils pour pouvoir réaliser ces prototypes. Donc on pourrait imaginer quelque chose où on va jusqu'au prototype. Après, les thèmes, on ne les a pas listés aujourd'hui. On l'a déjà fait sur l'agriculture, on l'a déjà fait sur le maintien, l'autonomie et le maintien à domicile. Voilà, les thèmes, ils restent à définir, mais la méthode, en tout cas, on compte bien la réutiliser, la réemployer.
Ce que je trouve intéressant, c'est que la solution technique, elle n'est pas pensée toute seule comme une solution, mais que c'est, j'ai l'impression, l'occasion de mettre en lien aussi plein d'acteurs pour répondre aux problèmes, quoi.
Oui, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte que typiquement, changer d'habitude alimentaire, ok, il faut peut-être changer sa manière d'acheter les produits, mais il faut aussi cuisiner. Donc nous, on s'est dit, c'est ce qu'on a fait pour la restitution, on va regarder les acteurs locaux qui font un peu des cours de cuisine comme ça. Donc on a eu par exemple El Labo de Paulette qui est à Oust-sur-Cie, qui est un restaurant solidaire, mais qui propose aussi des cours de cuisine pour changer un peu ses habitudes. On a été en contact aussi avec la banque alimentaire de la Drôme et d'Ardèche qui a mis en place un potager solidaire. Donc l'idée, c'est aussi son alimentation, on peut aller jusqu'à cultiver, faire du maraîchage, donc être à l'origine vraiment des produits plutôt que de les acheter. Et enfin, on s'est appuyé aussi sur un groupement d'achat. On trouvait que c'était bien de mettre cette initiative en valeur qui s'appelle Vrac Drôme, qui permet en fait un achat groupé plutôt de produits secs, mais locaux de qualité, sans marge en fait. Donc revendu à un tarif solidaire entre guillemets. Donc c'est ce type d'initiative à la fois cuisine, à la fois jardinage et à la fois achat, qui permettent finalement d'accompagner un peu le changement d'habitude alimentaire, puisque l'idée de ce changement, c'est à la fois d'avoir une alimentation de meilleure qualité pour la santé, plus locale et plus respectueuse de l'environnement, et qui donne aussi, enfin, qui soit plaisante, qui soit agréable. Donc, d'où l'importance de bien cuisiner ces aliments et pas de les manger à l'eau, quoi. Enfin, voilà.
Ben, merci pour toutes ces informations. Est-ce que peut-être avant de se quitter, toi, tu as donné une idée de recette pour l'appli ?
Alors, une recette qu'on m'a donnée le 15-06, donc le 15 juin, qui était sympa. Donc, c'est une recette, c'est pas forcément ultra locale, mais sympa quand même, avec des sardines. Vous prenez une petite boîte de sardines, vous allez réutiliser l'huile d'olive. Vous mettez un peu d'ail dans votre poêle avec cette huile d'olive. Vous faites cuire légèrement vos sardines. Vous mettez des pâtes à côté. Apparemment, c'est une recette d'Italie du Sud, on m'a dit. Vous mélangez tout ça et vous mettez un peu de panure de pain.
Et la même chose avec des anchois aussi.
C'est peut-être des anchois, alors, ouais. Ouais.
C'est peut-être des anchois, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Xavier, d'être venu jusqu'à nous.
Démissienne.
Merci.
Alors, quelques infos et brèves. Ce soir, le journaliste du Canard Enchaîné, écrivain Jean-Luc Porquet, sera l'invité du Club de la Presse Drôme-Ardèche 2607. Il sera présent à l'occasion de la remise des prix du concours Éco-Reportage. C'est un concours national qui récompense des journalistes auteurs de reportages sur la thématique du développement durable. Les reportages primés illustreront des expériences contribuant à des transitions écologiques, on revient à la transition, et sociale indispensable. Il en profitera pour présenter son dernier ouvrage, Le Grand Procès des Animaux. C'est ce soir à 19h au Train Cinéma à Porte-les-Valences et c'est gratuit.
Vous voulez découvrir les plantes sauvages comestibles et comprendre comment les cueillir et les utiliser en cuisine ? Alors c'est ce samedi, un atelier plantes comestibles et cuisine sauvage est organisé par l'association École Buissonnière à Crépol dans la Drôme des Collines. Cueillette, cuisine, dégustation autour d'un feu de camp. Feu de camp, s'il fait chaud comme ça. C'est sur inscription et c'est payant avec un prix différent pour les adhérents et les non-adhérents. Donc samedi de 14h30 à 17h30.
Demain, vendredi 24 à 18h30, rendez-vous au Centre du patrimoine arménien pour le vernissage de l'exposition de Laura Ben Ayoun à la moindre étincelle. C'était l'explosion que vous pourrez voir jusqu'au 28 août 2022. Ce travail qui mêle photographie, vidéo, textile, dessin, installation, etc. Permet de revisiter 60 ans plus tard la guerre d'Algérie au travers de l'histoire familiale de Laura. Et vous pouvez réécouter un invité de 11h et quelques qui lui a été consacré. C'est une très belle artiste et une très belle humaine. Et autre vernissage, demain soir aussi, à Chatuzange-le-Goubet cette fois-ci, ce sont les élèves des ateliers peinture, poterie, art floral et laine, comme quoi on peut faire de tout, du GASC, qui exposeront leurs œuvres en salle du conseil de la mairie jusqu'au 2 juillet. Et donc, vernissage demain soir à 19h à Chatuzange-le-Goubet.
Samedi toujours, à Château Double, Brocantard. Pour la 5e édition de cet événement, retrouvez une brocante toute la matinée de 9h à 12h30. Le spectacle Cirque Puce pour toutes et tous à partir de 4 ans sera représenté 5 fois tout au long de la journée. L'après-midi de 14h à 16h, bricolage sur papier pour les enfants de 7 à 10 ans. C'est gratuit. Venez avec un livre à recycler. Pour les plus grands, concours de pétanque de 14h à 18h, c'est 4 euros. Par équipe. Pour terminer en musique la journée, concert de la fanfare Zigo Maclick à 18h. Cuivre, percussion, bois, basse profonde et diato s'entremêlent sur des airs de valse, de rock, de funk, de reggae, de chant sur des arrangements en tout genre, probables et improbables.
Et on va continuer à parler musique avec Rémi et avec Martha, donc du Centre musical de Bourg-les-Valences, pour principalement le spectacle qui va se dérouler, la soirée concert qui va se dérouler le jeudi 30 juin avec Sheram et Yom. Mais avant de parler de cette belle soirée sur les qu'on vous fera vivre d'ailleurs aussi par les oreilles à la radio, il y a d'autres rendez-vous et notamment il y a un rendez-vous ce soir au Centre musical de Bourg-les-Valences. C'est l'audition de l'ensemble de flûtes et classes orchestre avant, c'est ça ?
Alors
non, alors bon,
Non, du tout. C'est exactement ça. En fait, c'est la classe FM Orchestre. C'est les petits qui vont faire une petite fin de saison avec leur programme, qui est un programme court, mais justement qui est ouvert à tout public. Ça va durer même pas 25-30 minutes. Et après, il y a un petit goûter pour eux. Et ça va être dans la cour du centre, si le temps nous le permet. Sinon, ça sera en intérieur. Et l'ensemble de flûte, malheureusement, pour cause de Covid, ne va pas avoir lieu ce soir.
Bon, et alors oui. c'est la classe orchestre vent.
Donc c'est juste la classe orchestre vent, classe FM.
D'accord.
Voilà, qui fait une petite représentation et c'est ouvert évidemment à tout public qui souhaite venir voir les ensembles du centre musical.
Bah, du coup, si vous avez des enfants qui sont intéressés
exactement.
Ou qui statent, et bah, c'est bien de voir voilà. venir voir les copains copines.
Voilà, tous les événements qu'on met en place un peu ce mois-ci vont faire un peu office de portes ouvertes. On préfère le faire sous cette forme-là. Qui est plus convivial aussi, montrer aussi la convivialité de l'association Centre Musical, car c'est vraiment une école de musique, mais associative, et qui permet ce côté un peu convivial, un peu moins académique, tout en restant
de qualité et
compétent dans son enseignement, il n'y a pas de souci.
Oui, c'est vraiment l'esprit école de musique, et c'est important de le dire. Pourquoi école de musique ? C'est que c'est vraiment n'importe qui veut faire de la musique,
exactement.
Qui n'a pas forcément envie de devenir virtuose, ou peut-être... Il peut aussi,
il peut.
Mais en tous les cas, vous avez envie de vous amuser, de vous faire plaisir
voilà.
avec un instrument.
La position du centre, elle est très claire, elle est vraiment de mettre le pied à l'étrier pour des amateurs, hein, la musique et la pratique en amateur, et plus si affinité, comme
voilà,
on dit. Après, nous, on poussera vers les portes du conservatoire.
Bien
voilà,
sûr.
Plus. Mais on s'en tient à la musique conviviale, que ce soit enfant, ado, adulte.
Effectivement, ça peut être une porte d'entrée ou ça peut être simplement faites-vous plaisir,
Exactement.
Plaisir et continuez à vous faire plaisir parce que généralement ceux qui rentrent ressortent pas vraiment.
C'est vrai, ou alors ils reviennent plus tard, ça arrive
voilà,
souvent.
Effectivement. Et ben pour continuer sur ces rendez-vous d'ailleurs de porte ouverte. Je crois que celui d'après, ça sera le vendredi 1er juillet, c'est ça ?
Le vendredi 1er juillet, où on finira donc la saison définitivement. On invite tous nos adhérents et toutes les personnes qui ont envie de venir justement découvrir d'autres gros ensembles du centre musical. On aura le Big Band et l'Orchestre d'Harmonie qui là feront quelque chose de très festif aussi. Et là, ça sera l'occasion. Tous les professeurs seront présents donc de poser des questions si on a envie de savoir un peu ce qui se passe, comment ça se passe. Voilà, tout le monde sera présent, donc c'est vraiment le moment de venir.
Il y a combien de professeurs ?
On est environ 15 à 16 salariés. Donc ça fait quand même pas mal de professeurs. Bon, effectivement, avec le temps, parfois on baisse au vu des finances.
Oui. Hein,
de toute façon, on a tous ce problème-là. Et on fait en sorte d'avoir des ateliers... plus collectif ou de ce genre de choses, mais on reste quand même 15-16 professeurs. Quoi.
Alors 15-16 professeurs, ça veut dire 15-16 disciplines ?
Oui, des fois c'est un professeur multicarte aussi qui va pouvoir faire un atelier,
oui,
plus un cours.
Plus
voilà,
de,
donc
de
souvent
disciplines.
Maintenant ça se passe comme ça, on a des professeurs qui sont quand même polyvalents, heureusement, et du coup sont sur un enseignement qui peut être spécialisé ou un enseignement très très ouvert sur de l'atelier complémentaire.
Alors, tu disais, c'est la clôture de saison.
Oui.
C'est les portes ouvertes en même temps. C'est le moment aussi de s'inscrire.
Exactement.
Il y aura aussi des inscriptions en septembre.
En septembre, bien sûr.
Voilà,
en
vous aurez une séance de rattrapage, mais c'est bien de le faire maintenant.
C'est bien de le faire maintenant, surtout que par rapport à l'année dernière, on voit que ça avance plutôt vite en ce moment. Donc, les gens ont envie quand même de refaire, sont moins frileux. Même après 2 ans de Covid, là, c'est vrai que c'était compliqué. D'où le projet, le gros projet IOM, justement,
bien
avec
sûr.
Chéram. Mais effectivement, on voit que ça repart quand même. Les gens ont envie. Les gens ont envie de se retrouver. On a fait une Saint-Patrick cette année. On a bien vu qu'il y avait une demande. Les gens ont envie de faire la fête un petit peu. Et tout en respectant tout ce qu'il faut.
Bien sûr.
C'est vrai que ça repart bien sur les inscriptions. En septembre, on peut s'inscrire. Au centre musical, on peut s'inscrire en fonction des places toute l'année aussi. Mais il vaut mieux être là sur ces deux grosses dates parce qu'après,
oui, c'est fonction
un peu plus restreint aussi.
Oui, bien sûr. Alors, tu disais les gens ont envie de faire la fête. Oui, puis je crois que cette période aussi a généré des envies. Et puis surtout de se dire, y a des lustres que j'ai envie d'essayer de chanter ou d'essayer le piano ou d'essayer la clarinette, par exemple.
Oui.
Et que je me dis, moi, non, je n'ai pas le temps, j'ai essayé. Si, parce que en fait, c'est important de le faire tout de suite.
C'est important. C'est important de le faire tout de suite. Et puis souvent, on a aussi des retraités hein, qui osent passer le cap, de se dire, Finalement, toute ma vie, j'ai regretté de pas revenir sur un instrument ou de pas commencer quelque chose. Et ça se fait. Nous, le centre musical, on le permet.
Ce que on peut commencer à tout âge.
Voilà, on commencera à tout âge. Et puis pour les petits, on rentre dès l'éveil. Donc c'est très formateur. Souvent, ils restent tout le cursus jusqu'à ce qu'ils partent pour leurs études. Ça arrive très, très souvent.
Et puis, il y a une belle ambiance. Voilà,
c'est familial.
Voilà, très familial. Et ça fait du bien. Et puis, pour connaître pas mal de gens qui sont impliqués, ils sont très fiers. Voilà, ils sont très contents. Il y a une espèce de joie au centre. Ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien.
Alors, le 30 juin, donc, comme tu disais, c'était un peu à cause de...
Nous ont vraiment tous perturbés. On sait très bien que la culture a été mise à mal bien profondément,
oui.
On va dire.
Oui.
Et malheureusement, il faut le défendre. Enfin, quand même, c'est pas malheureusement, il faut le défendre. C'est très important. On voit bien que la culture, la musique, tout, on en a besoin dans tout. On en a besoin avec l'image, on en a besoin tout le temps. C'est ce qui a aussi permis à des gens de se faire du bien, d'un point de vue même thérapeutique, je dirais.
Bien sûr.
Et c'est très, très important. Quand on comprendra que c'est très important, peut-être que...
On y mettra un peu plus de moyens.
C'est comprendre, en fait, le fond de tout ça qui fait du bien et qui rend les gens un peu moins malades, peut-être même psychologiquement sur des choses. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais c'est vrai que...
Non, mais on l'a vu pendant les confinements.
C'est l'échappatoire de beaucoup de choses. Et on voit bien que la culture musique ou hors musique, il y a quand même beaucoup de choses qui font du bien.
Alors, Yom, pourquoi Yom ?
Et Yom, pourquoi Yom ? Ça, c'est un souhait personnel. Alors, moi, je suis clarinettiste, c'est pas très... Mais bon, Yom, en fait, c'est un copain de promo. On était au conservatoire à Paris ensemble. Et ça fait des années que je veux qu'il vienne nous voir. Voilà, moi, c'est un plaisir de le retrouver. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. On se croise, mais sans trop se voir. Et là, effectivement, c'est le projet qui réunit... Qui fait du bien déjà à la structure, qui va faire du bien de faire venir des grands artistes comme ça. Quand on les connaît, c'est quand même bien de les voir, les voir en vrai, voir qu'effectivement, on peut les approcher. C'est pas interdit. Au contraire, faut venir et mettre en lien en fait son apport, en tout cas dans sa technique et dans sa façon d'aborder la musique, surtout la musique traditionnelle.
Tu peux peut-être le présenter un petit peu justement en tant que musicien.
Il est sorti d'une grosse formation conservatoire de haut niveau. Il avait une spécialité naturelle pour la musique orale. Voilà, donc la musique klezmer, la musique traditionnelle, et puis assez barré, entre guillemets, est parti sur l'électro, comme beaucoup l'ont fait, comme Ibrahim Malouf, des gens qui étaient partie des mêmes promos, d'ailleurs.
Il y a des bonnes promos, il y a des bonnes années,
ouais. On en a croisé des bons. Et du coup, effectivement, avoir l'opportunité maintenant de les voir après leur carrière, dans ce qui est leur profession, de toute façon, parce que moi, je me suis tourné, par exemple, sur l'enseignement. Eux, c'est sur le concert, sur l'artiste pur et dur sur scène. Et c'est bien de les voir dans ce contexte-là. Et moi, je fais le lien. Enfin, mon rôle, je crois, c'est de faire le lien avec l'aide de la structure sur le côté pédagogique et de les faire rencontrer ces artistes-là. Voilà, de pouvoir faire un travail pédagogique avec eux, notamment avec le groupe Sheram, qui va faire le lien aussi, qui va sur la musique orale, sur la musique arménienne, avec Georges Rascan, et puis Ankine, qui est une chanteuse exceptionnelle aussi, qui est du coin, ils sont tous de Bourg-les-Valence et Valence. Et effectivement, montrer qu'on peut faire de la musique académique, on peut faire une formation de base classique, et à la fois, on peut s'ouvrir énormément et aller très loin. Et c'est ce qui était important avec ce genre de pratique. Et ça ouvre un peu les esprits aussi, quand on pratique un instrument, de se dire qu'une identité musicale, ce n'est pas que prendre un cours, faire des études, faire des gammes ou faire des choses comme ça. C'est plein d'autres choses et on devient artiste. Mmh. On ne l'est pas de manière... inné, voilà.
Et puis que les musiques se nourrissent entre elles aussi.
Exactement, ce métissage est très très important et on s'aperçoit vraiment que la formation, en tout cas écrite, dans notre formation plus occidentale, elle a des limites et on peut aller bien plus loin et ce métissage-là va être important dans une structure et de manière générale pour l'identité musicale de chacun.
Alors, comment ça se passe? Il y a donc Yom, voilà, le concert de son projet personnel. Il y a le concert, comme tu dis, de Sheram, donc qui est ce... combien ils sont? C'est un quartet, je crois.
Ils sont au moins cinq, Sheram.
Voilà, quintet. Ouais. Bon, j'ai mal préparé.
J'ai mal lu. Après, il a des apports musiciens. Alors, des fois, ils sont
c'est
quatre.
Ça, voilà, ils sont un peu à géométrie variable.
C'est ça.
Mais en tous les cas, chacun donc, va proposer son travail, son identité, comme tu disais, sa couleur. Mais il y a aussi un travail qui a été fait, donc de passerelle.
Voilà, et la passerelle, c'est la passerelle pédagogique qui va faire qu'on va joindre plusieurs élèves de structures différentes. Donc là, il y a Pierre Latte, il y a Livron L'Oriole qui se joint au projet. C'est un travail de réseau qu'on a mis en place avec le département aussi sur ce schéma départemental des enseignements artistiques. Et en fait, je me sers effectivement de la musique chorale comme une entrée avec le travail avec le groupe Sheram. Donc il y a eu quatre ateliers qui ont été faits au centre musical en répétition. Et le guest Yom nous fera peut-être l'honneur de participer sur ce dernier morceau où mes élèves vont participer aussi. En fin de première partie. Donc voilà, c'est histoire de mêler le projet pédagogique à l'agréable. Quoi.
Bien sûr. Et puis pour les pratiquants, comme tu dis, de pouvoir être sur scène.
Sur scène, avec les artistes et approcher Yom de près, de le voir aussi évoluer avec eux, ça va être c'est important. Et puis puis le mélange aussi, je me disais, la musique arménienne et la musique de Yom, ça peut être sympa quand même.
J'en fais partie.
Tu en fais partie.
Oui, j'en fais alors, partie. Des élèves retraités et j'en fais partie des élèves qui va avoir ce privilège d'être sur scène avec Sheram et éventuellement avec Yom.
Superbe. C'est bien que tu prennes la parole d'ailleurs parce que justement en tant que bénévole, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir le retour. Martha, toi comme tu dis, tu es musicienne, tu es retraitée musicienne. Est-ce que c'était quelque chose que tu pratiquais avant et que tu as repris à ta retraite?
Si, j'ai commencé quand j'étais ado. Et quand tu es ado, tout est possible, tu fais tout et c'est parfait. Et effectivement, pour ma carrière, j'ai arrêté et j'ai recommencé 40 ans plus tard.
Wow.
C'était la promesse que j'avais faite à moi-même, que j'ai dit dès qu'il y a la retraite, je reprends la musique. Donc, heureusement, je suis tombée sur le centre musical où ils acceptent les retraités.
Mais pas que, hein.
Pas que, voilà, non, oui. Ouais. Ils acceptent tout le monde, en fait.
Oui, ça. On va de 6 à 77 ans.
Ouais. Non, mais ils acceptent tout le monde et c'est ça qui est formidable. Si tu as 7 ans ou 70 ans, c'est pareil.
Ouais. Et tu peux jouer ensemble aussi. Alors.
Oui,
c'est
on
ça,
joue
le
ensemble.
Le lien intergénérationnel est important, justement.
Ouais, c'est vraiment très important.
Et alors, toi qui as participé, du coup, tu as participé aux ateliers, j'imagine, avec Sheram. Comment est-ce que c'est une musique que tu connaissais ou pas du tout?
Et c'était très très instructif. Je ne connaissais pas la musique traditionnelle et surtout pas orale. Et on a découvert ça avec Georges Rasclan. C'est un très bon prof, il est vraiment pédagogue. Il a emmené Sheram avec lui avec les musiciens nombre variable et il nous a tout expliqué comment ça se construit, comment ça se joue et en gros, comment ça se sent, c'est les émotions.
Parce que qu'est-ce que c'est que la musique orale, finalement?
C'est une musique non écrite.
Voilà, oui. Ça
musique non écrite veut dire... alors, ça dépend en plus des traditions, parce que selon où on est, la tradition n'est pas la même. Ils vont mettre un nom sur des modes, ils vont travailler sur du quart de ton, trois quarts de ton. Ils ne vont pas avoir du tout de lecture. Ils vont tout faire à l'oreille, la plupart
c'est
du temps.
C'est tout à l'oreille.
Et par contre, avec une technique de feu, parce qu'ils peuvent passer... Moi, je vais en parler en termes pédagogiques. Ils peuvent passer d'une tonalité à l'autre. En un claquement de doigts, ça les gêne pas. Et ils vont tout faire à l'oreille. C'est ça ce qui est impressionnant dans cette musique. Avec des effets aussi, des effets qu'on n'utilisera pas forcément dans une pratique occidentale. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Donc c'est quoi? C'est peut-être aussi une plus grande liberté, justement le fait que ça ne soit pas écrit, ça génère...
Ça amène une liberté, mais qui va se rapprocher aussi de l'improvisation dans le jazz, dans beaucoup de choses. Mais ça respecte des codes. C'est quand même intéressant parce que chacun va respecter quand même un code qui est propre à sa musique. Mmh. On va en Inde, on ne va pas le pratiquer de la même façon. Voilà, y a vraiment plein de choses qui sont différentes. Et ce mélange-là amène aussi maintenant des artistes plus connus. Hein. On voit Gaël Faye ou des gens comme ça, ou même Ibrahim Malouf, justement, qui utilisent ce métissage, mais dans tous les sens. Pour Sheeran, par exemple, on va sur l'ethno jazz. On est vraiment sur quelque chose qui maintenant... Il y a plus de bac, on ne peut plus forcément les caser dans un bac à part dire musique du monde.
Et ça fait du bien d'ailleurs.
Hein, ça fait du bien. En fait, faire sauter ces barrières-là, c'est ce qui est important. Même pour la pratique, en tout cas de base, dans une école de musique ou un conservatoire, c'est quand même bien d'aller aussi tâter cette pratique-là et se donner une liberté par rapport au style de musique qu'on joue. Voilà, ça, c'est super important. Et ça libère. C'est là où c'est thérapeutique. Et c'est vrai.
Alors, venez les écouter. Voilà, moi, je ne sais pas vous, moi, ça me donne très, très envie. D'ailleurs, on sait que nous, on y sera, puisqu'on va installer un studio mobile et puis on va porter le micro un petit peu à que ce soit aux artistes, que ce soit aux amateurs éclairés et amatrices éclairées, que ce soit au personnel du centre. Enfin, voilà. Et puis, retransmettre les concerts. Mais venez, parce que rien ne vaut quand même d'être présent dans la salle. Alors, c'est sûr que si vous êtes très loin, mais écoutez Radio BLV. Mais vraiment, si vous êtes dans le coin, venez, venez, parce que je pense que ça va être très émouvant et très fort.
Oui, humainement, c'est sûr. Musicalement, encore plus. Oui. Et puis, Yom, je reviens sur Yom quand même, mais c'est un artiste exceptionnel. Vraiment.
Et puis
d'une humilité. C'est quelqu'un de très, très gentil, qui est hyper abordable. Il est difficile à voir au téléphone, c'est tout. C'est comme tous les artistes. Mais il est super, donc voilà.
Alors, c'est le 30 juin à 21h, le 30 juin à 20h, autant pour moi, la première partie démarre à 20h, et on aura Yom à 21h, voilà. En gros, voilà. Pour c'est quoi les prix du spectacle,
de
la soirée ?
Pour l'ensemble de la soirée, c'est 26 euros. Voilà, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, ça je précise, parce que c'est vrai que c'est... on a décidé ça, le bureau du centre musical a décidé qu'il fallait permettre aux jeunes de venir voir ce concert. Et effectivement, c'est le but. Donc voilà, gratuit pour les moins de 12 ans, il faut en profiter. Donc après, effectivement, on se dit 25, 26 euros. À la fois, ce n'est pas si cher que ça pour un concert de cette qualité-là. Et je pense qu'un artiste comme Yom, ça vaut le coup.
Très bien. Et alors, les réservations,
réservation en ligne sur le site du centre musical. Si on n'y arrive pas, on peut appeler au centre musical, on va se débrouiller. Et après, je sais qu'on va ouvrir une billetterie quand même sur place, parce que certains vont vouloir prendre leur place en direct. Donc, on va tout faire.
Très bien. Donc, vous pouvez venir, mais c'est toujours mieux de réserver, parce que, dites-vous, pour les organisateurs et organisatrices, c'est toujours plus pratique. Ça permet de vous accueillir dans de meilleures conditions. Et puis sinon, même si c'est au dernier moment, vous sortez du boulot, vous dites, tiens, ce soir, je ferai bien ça. Et ben, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les deux. Puis on reparlera du centre musical, puisqu'on sera ensemble le 1er octobre 2022 au centre musical pour fêter notamment les 40 ans de Radio BLV, enfin, le début des 40 ans de Radio BLV, mais ça, on en reparlera.
Pas de souci.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
On continue avec les infos locales, avec le Festival Dehors, donc il y a un festival de spectacles vivants pour un public familial et accessible à prix libre. Ça sera cet été du 24 au 28 août 2022. Et l'association qui l'organise, donc l'association Les Vertébrés, offre des ateliers parents-enfants aux familles, et ça c'est pour bientôt. Ces ateliers sont accessibles à des binômes constitués d'un enfant et d'un adulte, que ce soit un parent, un oncle, une grand-mère, une marraine, etc. 4 sessions sont organisées pour participer à construire la scénographie du festival. Ça sera ce samedi, donc le 25 juin, et le 2 juillet. Au menu, construction de la décoration, choix de la forme à fabriquer, détourage à l'aide d'un vidéoprojecteur, découpe de bois, peinture et assemblage. Ces ateliers sont l'occasion d'approcher des outils qui peuvent paraître inaccessibles. Et tout ça, c'est accessible aux enfants de plus de 10 ans. Place limitée sur inscription.
C'est le premier festival de théâtre à L'Oriol ce week-end, 24, 25 et 26 juin, et qui est porté par la compagnie Indice 2, c'est pour ça aussi qu'on en parle, et qui est organisé, porté et organisé par la compagnie Indice 2. Moi, je vous conseille d'aller sur le site de la compagnie pour tout savoir. Ce sont des sorties d'ateliers, notamment, que la compagnie mène à L'Oriol.
Venez découvrir une partie de Valence que vous n'avez peut-être jamais vue. Samedi à 14h30, on embarque pour une promenade intimiste pour découvrir des hôtels particuliers et des cours intérieurs rarement ouverts au public. Ça s'appelle les Belles Demeures, c'est à Valence et c'est samedi à 14h30 sur réservation.
Et toujours samedi, eh bien, la ville de Valence organise une grande journée culturelle et festive qui s'appelle Un air d'été autour du site de la Tour Maubourg et de tout le quartier qui se trouve autour, Polygone, etc. Et il y aura entre autres une brocante culturelle, attention, qui est ouverte aux professionnels et aux amateurs, et enfin tout le monde, de la salsa, des origamis, des concerts, dont Belzaï à midi par exemple, ou le duo vocal Bleu Safran à 14h30, des spectacles avec Il était une fille de Gwen Soli et la compagnie Legratoire à Ménage qui se déroulera, je crois que c'est à 15h, si mes souvenirs sont bons, c'est à 15h dans la médiathèque La Tour Maubourg. Un seul en roue de Colline Mercier, des lectures à voix haute dans le noir de textes choisis par les bibliothécaires, un spectacle de claquettes par Danse Avenue, on fait un grand coucou à Stéphanie Roche, des ateliers vélo, une balade historique et pour finir, le grand orchestre de Jean-Jacques Justafré qui sera en concert au Palais des Congrès et qui sera suivi au Palais des Expositions et qui sera suivi d'un feu d'artifice. Pour tout le détail, eh bien, vous pouvez aller sur valence.fr. Ainsi se termine cette locale avec Sylvie et Maria. Et merci à Clément pour la technique. Vous restez bien entendu sur Radio BLV 93.6. Et Maria, qu'est-ce qu'il y a à la suite des programmes?
Alors à 13h, musique de sac et de cordes. Donc ça sera sur le Québec avec Liette Raymond. À 19h, Inouï, donc c'est de la création sonore. À 20h15, la route du blues. Vendredi, retrouvez le lieu-dit, l'émission historique de Radio BLV par Pierrick. Une spéciale sur l'histoire de Bourg-les-Valence pour les 40 ans de la radio à 12h15. Ou encore la toute dernière de la série, Les femmes au fil de l'histoire, sur l'histoire des femmes, donc c'est demain à 17h45. Samedi, après notre temps musical du matin réservé aux aînés, écoutez donc Plantes et épices, une passion. L'émission sur la cuisine des plantes sauvages par Josiane sur la mauve. Avant et après et entre les émissions, notre programmation musicale unique par Sylvie.
Merci. Et puis, surtout, cette semaine aussi, c'est la diffusion du dernier épisode des Croisés de Terra, notre grand feuilleton radiophonique complètement déjanté qui a été fabriqué par Eric Servos, avec la compagnie Les Zygomatiques notamment, et que vous retrouverez, bon, de toute façon, vous pouvez le retrouver sur notre site internet en podcast, et tout l'été, vous retrouverez tous les épisodes. N'oubliez pas que si vous avez aimé cette émission, vous pourrez la retrouver ainsi que toutes les autres de Radio BLV sur notre site internet www.radioblv.com. Vous pouvez aussi suivre nos actualités, et nous retrouver sur Facebook et Instagram @RadioBLV. À la semaine prochaine, je vous souhaite une très très belle fin de semaine et puis à bientôt.